rapidement le temps file, j'ai un petit message à vous partager. Donc, rapidement, je vous invite, pour ceux qui ont leur Bible, à tourner dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15. On va regarder rapidement quelle belle histoire, l'histoire que Jésus va raconter. C'est la plus longue des paraboles, on ne la lira pas, je ne la lirai pas avant de vous la partager. C'est la plus longue des paraboles que Jésus a racontées et qui contient le plus de dialogues que toutes les autres paraboles que Jésus a pu raconter. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que peu importe où vous venez, peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, peu importe votre culture, peu importe vos expériences de vie, vous vous sentez toujours concerné par cette histoire. Et les versets 1 à 3, pour ceux qui ont leur Bible, je vais sortir la mienne. Et verset 1 à 3 nous rappelle dans quel contexte Jésus va raconter cette histoire. Il est écrit que les collecteurs d'impôts et les autres gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les maîtres de la loi s'indignaient entre eux et disaient « Cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. » Et Jésus va alors leur dire cette parabole. Jésus va essayer d'atteindre le cœur de ces religieux qui n'avaient rien à se reprocher. Et il va essayer de s'adresser aussi à ces autres gens qui avaient une mauvaise réputation à leur Dieu, qu'on appelle les pécheurs. Il va tenter d'amener ceux-ci à croire en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu à se concentrer sur Dieu. En d'autres mots, il veut leur révéler à travers cette parole quelle sorte de Dieu est vraiment, ainsi que la relation qu'il désire avoir avec vous, avec moi, en tant que père. Et c'est là l'enseignement principal de cette parabole qui se divise en trois parties distinctes et qui nous donne trois vérités distinctes sur ce Père merveilleux qui n'est nul autre que Dieu lui-même. Voici donc la première vérité que nous apprenons dans cette parabole. Le Père nous aime même lorsque nous nous rebellons contre lui. Le Père nous aime même lorsque nous nous rebellons contre lui. L'histoire commence en nous parlant d'un fils qui vivait au sein d'une bonne famille et qui avait un père merveilleux. Ce fils avait tout ce dont il avait besoin dans la vie. Il pouvait se procurer tout ce qu'il désirait. Et comme cela se produit parfois chez les enfants, la racine de l'ingratitude s'est développée dans son cœur pour faire apparaître le fruit de la rébellion. Et au verset 12, Jésus dit que le plus jeune fils dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea les biens entre les deux fils. Et nous venons maintenant de comprendre ici, nous devons quand même comprendre ici que la loi juive, ce que le fils est en train de faire par rapport à la loi juive. La loi juive, elle était très claire. Le fils aîné devait avoir les deux tiers de l'héritage, et l'autre fils devait avoir le tiers de l'héritage. Donc, si vous aviez deux fils, le fils aîné avait les deux tiers et le fils cadet avait un tiers au moment du décès du père. Le jeune homme va voir son père en lui disant, « Hey, papa, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » C'est-à-dire, « Écoute, moi, je vais avoir mon tiers de ce qui m'appartient, je vais l'avoir maintenant. » Nous savons qu'en principe, il n'y a qu'une seule chose qui permet à quelqu'un de pouvoir hériter, et c'est lors d'un décès de quelqu'un. En fait, ce que ce jeune homme était en train de dire à son père, c'était ceci. Je souhaiterais que tu sois mort, parce que j'aimerais bénéficier de ce que tu as plutôt que de bénéficier de ta présence. N'y a-t-il pas quelque chose de plus dévastateur pour un père ou une mère d'entendre sortir de la bouche de son enfant, chers amis, quelque chose de semblable? Essayez d'imaginer ce que cela vous ferait si vous étiez en train de parler avec un de vos enfants au téléphone et que dans un moment de colère, il vous dirait « je préférerais que tu sois mort ». Imaginez ce père qui voit arriver son enfant et qui l'entend lui dire « je veux avoir la part de mon héritage maintenant ». Et dans la culture juive, il venait à cet instant même de déshonorer son père, de l'insulter et de le renier. Contrairement à aujourd'hui, à cette époque, le père aurait giflé son fils, il l'aurait chassé de la maison, et il aurait ensuite convoqué toute la communauté pour leur annoncer que ce garçon n'était plus son fils, qu'on ne devait plus jamais lui parler, ni l'accueillir chez eux. Ce garçon était devenu quelqu'un d'infréquentable, selon la loi, dans la maison du père et dans la communauté. Mais dans cette histoire, ce qui est intéressant, ce n'est pas de cette façon que le père va agir. Il va faire quelque chose que vous n'auriez jamais pensé qu'un père au Moyen-Orient aurait pu faire. Il va ignorer l'insulte qui venait de lui être faite de la part de son fils. Et il va faire l'impensable en accédant à la demande de son fils, tout en sachant très bien ce qu'il allait faire de son argent. Il sait que le chemin que son fils est en train de prendre et sur le point de prendre est parsemé de mines de chagrin, de douleur, de déception et d'impuissance. Et malgré le fait que son fils venait de lui dire qu'il aimait plus ses biens que possédait son père, que son propre père lui-même, le père, en agissant ainsi, disait à son fils, « Je t'aime plus que tous les biens que je possède. » J'imagine maintenant la scène, les larmes qui coulent sur le visage du père et son cœur qui est brisé, fracassé en mille morceaux, mais il laisse aller le fils dans sa décision qu'il a prise d'emprunter ce chemin rempli de pièges de toutes sortes. Comme il nous est arrivé dans le passé, je pense à tous, de faire des mauvais choix. Au tout début, tout nous semble beau. Les choses semblent se dérouler comme nous l'avions rêvé, mais la réalité souvent est tout autre, n'est-ce pas? Lisons les versets 13 à 16 pour ceux qui ont leur Bible qui nous racontent la suite de l'histoire. Peu de jours après, en d'autres mots, ce jeune homme n'a pas attendu que le gazon pousse sur ses pieds. Il est déjà un homme, il est déjà prêt à quitter la maison, en emportant avec lui la part de l'héritage. Peu de jours après, nous dit le texte, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il allait se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Vous imaginez, pour un juif, non seulement il est défendu de manger du cochon, mais de garder les cochons, c'est la pire insulte qu'on ne peut pas faire à un juif. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que manger les cochons, mais personne ne lui en donnait. Si j'avais à avertir un jeune de moins de 21 ans, aujourd'hui, qui est dans cette salle, je lui dirais ceci. Le monde prendra de toi tout ce que tu as, et ne te donnera rien de ce dont tu as besoin. Ce garçon avait tout perdu, sauf l'amour de son père. Et j'aimerais vous parler de l'amour du Père Céleste. Parmi ceux qui ont l'expérience de la vie ici, parmi ceux qui ont connu des échecs sentimentaux, des échecs amoureux dans leur vie, combien d'hommes et combien de femmes vous ont dit qu'ils vous aimeraient jusqu'à la fin de vos jours? Où sont-ils ces gens-là aujourd'hui? Combien parmi ces gens-là vous ont-ils laissé tomber? Combien de personnes vous ont dit qu'ils se marieraient avec vous jusqu'à la fin de leur vie et qui sont partis avec un autre ou une autre? Combien de gens sont mariés avec vous, étaient mariés avec vous, qui vous ont laissé pour rien? Comme le Père, ils préféraient l'attrait du monde plutôt que les promesses qu'ils avaient faites. Et l'amour de Dieu ne vous fera jamais défaut. L'amour de Dieu ne m'a jamais fait défaut. Et l'amour de Dieu ne vous fera jamais défaut. C'est l'une des plus grandes choses qui ne quitte jamais le cœur d'un papa ou d'une mère, n'est-ce pas, l'amour? Peu importe ce que vous leur avez fait, ils ne cesseront jamais de vous aimer. Lorsque tout le monde autour de vous vous abandonne, vous trouvez toujours un papa et une maman pour vous accueillir. À combien plus fort le Père qui est notre Créateur? À combien plus forte raison le Père qui nous a aimés au point de sacrifier son seul fils? À combien plus forte raison? Jamais le Père, peu importe ce que vous faites, jamais le Père ne vous abandonnera. Jamais son amour ne nous fera défaut. Ça, c'est un point que la parabole, cette parabole, nous laisse. Personne d'autre sera là pour vous, mais les bras d'une maman et d'un papa affectueux seront toujours là pour vous. Il y a certains d'entre vous que je ne connais pas cet après-midi. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas d'où vous venez. Je ne sais pas quelle situation vous vivez. Mais j'aimerais vous dire ceci. Il y a un Père au ciel qui vous aime. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui pourrait l'amener à ne plus vous aimer. Et vous ne pouvez rien faire de mal qui l'amènerait à vous aimer moins. Et vous ne pourriez rien faire de bien qui pourrait l'amener à vous aimer plus qu'il vous aime maintenant. Vous avez un Père qui vous aime, mais peu importe ce que vous avez fait, le genre de vie que vous avez vécu et le nombre d'années que vous avez, que vous êtes plus à vivre ainsi, il laissera toujours la lumière allumée sur la façade de sa maison et la porte ouverte pour vous. Ça, c'est la première vérité qu'on retrouve dans cette parabole. La deuxième vérité, le Père nous accepte toujours quand nous revenons à lui. Le Père nous accepte toujours quand nous revenons à lui. Nous pouvons, il peut arriver dans notre vie que nous décidions de l'abandonner, mais jamais le Père va vous abandonner, c'est une promesse qu'il a faite. Je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Le Père nous accepte toujours quand nous revenons à lui. Il n'y a pas de phénomène de rejet dans le monde chrétien, il n'y a pas de phénomène de rejet. Nous savons, malgré nos désobéissances, malgré nos imperfections, que si nous mettons Dieu de côté, s'il n'occupe pas la première place dans notre vie, nous pouvons toujours compter sur lui. Il est toujours à nos côtés, il est toujours présent dans nos vies. C'est ce qu'il nous a promis. Le Père nous accepte toujours quand nous revenons à lui. Ce garçon est passé du pentas à la porcherie. La première partie de cette histoire se termine par les mots, ces mots verset 16. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que manger des cochons, mais personne ne lui en donnait. Il avait faim, mais personne ne lui en donnait. Nous avons là un exemple devant nous de faillite personnelle. Non seulement il est financièrement en faillite, mais pire encore, il est spirituellement en faillite, il est socialement en faillite, et au niveau relationnel, il est complètement en faillite. La seule bonne nouvelle pour ce garçon, alors qu'il se trouve au milieu des cochons, c'est qu'il avait touché le fond, qu'il ne pouvait pas descendre plus bas que le fond, c'est le plus bas que vous pouvez atteindre. Nous entrons maintenant dans la deuxième partie de cette histoire. Il est écrit au verset 17, « Étant rentré en lui-même », c'est la transcrit de cette deuxième partie. Étant rentré en lui-même, c'est-à-dire lorsqu'il s'est mis à réfléchir sur sa situation, il se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont plus de nourriture qu'ils n'en peuvent manger, tandis que moi ici, je meurs de faim. » Comme le voyant à travers le Fils, lorsque vous commencez à réfléchir, vous commencez à retrouver votre bon sens. On vit dans une société aujourd'hui qui tourne tellement vite que les gens n'ont plus le temps de prendre du temps pour réfléchir. On est embarqué dans un cyclone, dans un ouragan de déplacement dans le monde et on n'a plus le temps de réfléchir, on suit le courant. Mais quand on prend le temps de réfléchir comme ce jeune garçon, eh bien, on retrouve notre bon sens. Verset 18-20, il dit, je vais retourner chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il partit pour retourner chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et il fut ému de compassion. En d'autres mots, le père, lorsqu'il a vu dans l'état dans lequel arrivait son fils, il en a eu profondément pitié. Le père courait à sa rencontre, le serrant contre lui et l'embrassant. Pouvez-vous imaginer dans quel état le père a retrouvé son jeune fils? Il avait probablement les épaules voûtées, il avait sûrement la tête penchée vers l'avant, il était sale, il fait sentir mauvais, et il avait perdu au moins 25 kilos. Peut-être qu'il espérait que personne ne le verrait, mais le père l'a vu. Et pourquoi le père l'a-t-il vu? Parce que le père a toujours espéré le retour de son fils. Quand le jeune homme est revenu, il était non seulement méconnaissable, mais il était brisé, il était cassé. Et quand nous disons que le père l'embrassa, le verbe grec utilisé dans le texte ici signifie que le père l'embrassa au point de l'étouffer. Il l'embrassait encore et encore et encore. Le père était content de voir le fils qu'il avait perdu être retrouvé. Le garçon était sale, mais le père pouvait goûter la saleté. Le garçon sentait extrêmement mauvais, mais le père pouvait sentir la puanteur. Il embrassait tellement son garçon qu'il ne pouvait même pas parler. Permettez-moi de vous dire ce à quoi nous assistons ici. Nous voyons la beauté de l'amour du Père envers son enfant, ainsi que le pouvoir de la grâce exercé par son Père envers un fils rebelle, et sa joie de voir son fils et de retour à la maison du Père. Vous savez ce qui est le plus difficile pour revenir à Dieu? Vous savez ce qui est le plus difficile si vous avez déjà quitté de revenir à Dieu ou de venir à Dieu? C'est de renoncer aux choses de ce monde. Renoncer à certains péchés qu'on a dans notre cœur et qu'on ne veut pas abandonner, et qui pourtant ne nous donnent pas le plaisir qu'on y attendait, et qui sont en train de ruiner notre santé, qui sont en train de ruiner notre vie, de ruiner même notre mariage. Ça, c'est la grande difficulté qui empêche les gens de venir à Jésus-Christ, de renoncer à ce que le monde leur offre. Parce qu'au bout du compte, quand vous faites le bilan de votre vie, le monde ne vous donne rien pour rien. Le monde ne sort jamais gagnant de ce qu'il nous donne. Il ne sort jamais perdant de ce qu'il nous donne. Ils en sortent toujours gagnants. Le monde a le don de nous dépouiller. Que ce soit en taxe, que ce soit en impôt, que ce soit en vol, le monde a toujours le don de nous dépouiller. Mais pas le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas nous dépouiller. Il veut nous revêtir de son amour. Il veut nous revêtir de sa bonté. Si nous pouvions photographier cette scène dans notre tête, nous verrions comment Dieu, le Père, traite tous ceux qui décident de rentrer à la maison. Vous êtes ici cet après-midi, vous vous dites peut-être en vous-même, mais vous êtes en train de me dire que Dieu serait prêt à m'accueillir, moi. Mais ne savez-vous pas quel genre de vie je mène? Non, je ne sais pas. Vous ne savez peut-être pas où je viens? Non, je ne sais pas. Vous ne savez même pas comment je me sens en ce moment? Non, je ne sais pas. Par contre, je vais vous dire ce que je sais. Quand vous décidez de rentrer à la maison, chers amis, le Père vous verra avec des yeux qui pardonnent. Il vous parlera avec un cœur qui pardonne. Il courra vers vous avec des pieds qui pardonnent. Il vous serrera dans ses bras avec des bras qui pardonnent. Et il vous embrassera avec des lèvres qui pardonnent. Rappelez-vous que ce fils avait préparé un petit discours. Il avait en quelque sorte écrit, mémorisé, retourné dans sa tête. quand il avait retourné dans tous les sens. Remarquez plutôt ce qui se passe au verset 21 pour ceux qui ont leur Bible. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Rappelez-vous la deuxième partie de ce discours qu'il n'a pas eu le temps de dire. « Je suis prêt à être traité comme un esclave. Je suis prêt à faire les pires besognes. Je serais heureux de faire toutes ces choses. Veux-tu bien m'accepter? » Il n'a jamais eu le temps de terminer sa phrase parce que le père l'a interrompu. Regardez au verset 22. « Mais le père dit à ses serviteurs, et ça c'est une belle partie de cette parabole, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des souliers aux pieds. » C'est extraordinaire, chers amis, ce que le père va dire. « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe. » Mais la robe de qui? Sa robe à lui. Qui possédait la plus belle robe dans la maison? Le père. « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe qui est la mienne et revêtez-le. » Vous vous rappelez à quel moment le père va prononcer ces paroles? Lorsque le fils lui a dit, « Mon père, j'ai péché. » Mais la robe lui disait, « Fils, tes péchés sont pardonnés. » Puis le père a mis une bague au doigt de son fils. Et à cette époque, une bague était la façon employée pour traiter les affaires. Sur le dessus de cette bague, il y avait un sceau représentant la famille. Et lorsque vous deviez signer un contrat, faire une transaction, peu importe ce que vous vouliez faire, tout ce que vous aviez à faire, c'était d'apposer le sceau sur cet anneau, sur le document ou sur la pièce achetée. Et c'était un contrat exécutoire, c'est-à-dire que si vous brisiez ce contrat, vous étiez traîné devant les tribunaux. Autrement dit, ce que le père venait de faire, c'était de donner accès à son fils, à ses comptes bancaires, à sa carte de crédit, ainsi qu'à tout ce qui lui appartenait. Et lorsque le fils va dire, « Je ne suis plus digne d'être appelé son fils », la bague lui disait, « Tu es digne d'être appelé mon fils ». Veuillez, le père va lui donner des chaussures. Frères et sœurs, il est bon de remarquer qu'à cette époque, les esclaves étaient pieds nus. Seuls les membres de la famille pouvaient porter les chaussures. Et lorsque le fils s'apprêtait à lui dire, « Laisse-moi juste devenir ton esclave », les chaussures lui disaient, « Tu n'es pas un esclave, je ne te traiterai pas un esclave, tu es toujours mon fils et je vais te traiter comme mon fils. » Pourquoi le père a-t-il agi ainsi? Qu'est-ce qui a poussé le père à agir ainsi? Il est écrit que c'est parce que le père et le fils étaient perdus et qu'il a été retrouvé, verset 24, « Car mon fils te voici, et il était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, je l'ai retrouvé. » Ils commencèrent à se réjouir et une joyeuse fête commença. Voilà la deuxième vérité. Voici la troisième rapidement de cette parabole. Le père est à notre poursuite quand nous le rejetons. Frères et sœurs, chers amis, vous n'êtes pas par hasard ici dans ce lieu, par hasard, après-midi. Dieu vous a convié depuis toute éternité dans ce lieu pour entendre peut-être une seule fois l'Évangile de la grâce. Ce sera peut-être votre seule et unique fois. Le Père nous poursuit lorsque nous le rejetons. Et avez-vous remarqué quand, pour ceux qui connaissent la parabole, malheureusement on ne l'a pas tout lu, mais est-ce que vous avez remarqué qu'une seule personne qui était fâchée concernant la fête que le Père est en train de préparer? Verset 25 à 28. « Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. » Il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a fait tuer le veau que nous avons engraissé parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Le fils aîné se mit alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit et le pria d'entrer. Ce fils était tellement en colère qu'il va utiliser un moyen radical pour rompre définitivement sa relation avec son père. Chers amis, à cette époque, un fils qui refusait d'aller à une fête ou un banquet donné par le père, c'était là l'insulte publique à ne jamais rien faire. Tu ne pouvais pas te permettre de faire ça, c'était une gifle que tu lançais directement à la face de tout le monde dans le visage de ton père. Maintenant, la question est de savoir pourquoi ce frère était si en colère. Qu'est-ce qui l'avait amené à être si en rogne? Lui, il avait tout ce qu'il voulait. Tout simplement parce qu'il pensait que son père était injuste d'avoir traité son fils en lui pardonnant. Il suffit de lire ce qu'il va dire au verset 29. Mais il répondit à son père, « Écoute, cela fait tellement d'années que je te sers. Écoutez la suite, et je n'ai jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse un repas et que je me réjouisse avec mes amis. » C'est une chose, chers amis, de dire à son père et à sa mère, « J'étais un bon fils ou une bonne fille. » Mais c'en est une autre de dire à son père et à sa mère que j'étais un fils parfait ou une fille parfaite. Il dit, « Je n'ai jamais désobéi à tes ordres. » Et vous savez que le père aurait pu lui dire aussitôt qu'il venait de terminer sa phrase, « Tu viens de me dire que tu ne m'as jamais désobéi, mais tu viens juste de le faire en refusant de participer à la fête que je suis en train de préparer. » Supposons simplement que ce garçon avait dit était vrai, et bien sûr que c'était considéré que c'était faux, puisqu'il n'y a ni fils ni fille qui est parfait. Supposons qu'il n'avait jamais désobéi de sa vie à un ordre donné par son père. il y avait quelque chose que ce garçon n'avait pas encore compris. Ce qui en faisait en sorte que ce garçon était le fils de son père, ce n'était pas tout ce qu'il avait fait pour son père, parce que cela ne faisait pas partie des critères établis par le père. Notre performance n'a rien à voir avec la position que nous occupons devant le père, devant Dieu. C'est pas ce qu'on fait qui va nous permettre de pouvoir mériter le ciel ou de pouvoir mériter la faveur de Dieu. Ça n'a rien à voir. La seule chose qui peut nous mériter la faveur de Dieu, c'est d'accepter ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous. Le plus jeune fils est embarrassé parce qu'il ne pensait pas qu'il méritait d'être parfait. Le fils aîné est contrarié parce qu'il ne pensait pas qu'il serait le nom de Dieu. Il ne pensait pas qu'il devait y avoir une fête. Et ce n'était pas là le vrai problème avec le grand frère. Et vous allez voir où je vais en venir. Si nous voulons savoir quel était le véritable problème du fils aîné, il suffit de lire le verset 30. Mais quand ton fils te voilà est arrivé, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau que nous avons agressé. Le frère aîné réagit exactement comme réagissent ceux qui croient que leurs bonnes œuvres vont les faire entrer au ciel. Il aime se faire comparer à des gens qu'il considère étant comme moins vertueux qu'eux. Ces gens très vertueux ne comprennent non pas seulement que Dieu puisse accepter les pécheurs, mais ces gens qui fonctionnent en vertu de leur vertu, de leurs œuvres, ne comprennent pas pourquoi ils devraient se remettre en question devant Dieu, puisqu'ils ne font jamais rien de mal. La grande force réside dans le fait que ces gens très vertueux se comparent toujours avec des gens qui sont pires qu'eux. Soyons honnêtes, cela nous est déjà arrivé dans le passé d'avoir la même attitude. Nous disons que nous aimons les homosexuels, ceux qui vivent dans la débauche, ceux qui vivent dans l'immoralité, mais nous ne voulons pas dans nos églises, parce que nous ne voulons pas nous en occuper. Nous ne voulons pas nous occuper, en fait, de leurs problèmes. Frères et sœurs, s'il y a bien un endroit où quiconque sur cette planète vivant en dehors de Dieu, en dehors de la famille de Dieu, devrait se sentir le bienvenu, c'est bien dans l'église. Nous devrions être de ceux qui devraient dire, écoutez, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec votre style de vie. Nous ne sommes pas nécessairement d'accord avec beaucoup de choses, mais ici, c'est la maison de mon Père et sa porte est toujours ouverte pour recevoir quiconque veut bien y entrer. Vous serez toujours traités ici avec amour, décence et respect. Qu'est-ce qui caractérise les personnes vertueuses? Ce sont des gens qui pensent que non seulement les pécheurs ne peuvent jamais pardonner, mais qu'ils ne devraient jamais pardonner. Ils font partie de cette égarée de gens qui se disent en eux-mêmes, je me fiche que cette personne, qu'on dise que cette personne s'est repensée à toute fin de sa vie. Il n'y a aucun moyen qu'un Dieu saint puisse l'accepter au paradis. Le frère aîné était animé de cet esprit de jugement qui disait à son frère, qui disait que son frère méritait d'être puni. Le père était animé d'un autre esprit parce que son fils était repenti et méritait d'être pardonné. Le frère aîné était animé d'un esprit de jugement, le père était animé d'un esprit de grâce. Le fils aîné était animé d'un esprit de vengeance, le père était animé d'un esprit de réconciliation. Quand j'ai appris en 2011, Oussama Ben Laden avait été tué. Je dois vous avouer que ma toute première réaction fut de ressentir une grande joie dans mon cœur. Je vous dis, j'étais content. En regardant les nouvelles sur les chaînes américaines et en voyant ces gens rassemblés devant la Maison Blanche, sautant de long en large, qui applaudissaient, criaient de joie parce que cet homme avait enfin eu ce qu'il méritait, j'étais content. Puis il m'a fallu quelques minutes pour comprendre que Dieu ne s'était pas réjoui de la mort de Ben Laden. En fait, j'ai pas oublié que Dieu disait dans sa parole, « Pensez-vous que j'aime voir mourir les méchants? Jamais. Tout ce que je désire, c'est qu'ils se repentent de tes vies. » Frères et sœurs, rappelons-nous que Dieu n'organise jamais une fête lorsque des personnes perdues sont tuées. Dieu n'organise une fête seulement lorsque des personnes perdues sont retrouvées. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle que pour 90 personnes respectables qui en ont encore besoin. C'est à ce moment-là que Dieu célèbre et c'est pour cette raison que cette histoire se termine par ces mots, verset 31. « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que je possède est aussi à toi. Mais nous devrions nous réjouir, faire une joyeuse fête parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est maintenant retrouvé. Pour autant que nous le sachions, le frère aîné n'est jamais allé à cette fête. Pour autant que nous le sachions, le frère aîné n'est jamais revenu pour se réconcilier avec son père. Cela démontre quelque chose que non seulement Jésus a enseigné, mais que j'ai expérimenté au fil des ans dans mon propre ministère, il est beaucoup plus facile d'atteindre les pécheurs que les personnes vertueuses. Les pécheurs sont beaucoup plus ouverts à l'Évangile que les personnes qui se croient justes. Dites-moi honnêtement, qui a la meilleure chance d'aller chez le médecin? Un malade qui réalise qu'il est malade ou un malade qui pense qu'il tout va bien? Je ne vous connais pas tous personnellement, je ne sais pas qui vous êtes, d'où vous venez, ni ce que vous vivez, encore moins votre état d'âme, mais dans cette histoire, il y a un troisième fils. Il n'est pas facile à trouver, mais il est présent. Vous savez qui c'est? C'est le Fils qui est en train de raconter cette histoire. Et c'est à cause de ce Fils qui est mort sur la croix et qui est revenu de la mort à la vie que la porte du pardon et la porte du ciel sont ouvertes en permanence pour tous ceux qui veulent la traverser et que l'histoire de tous et chacun peut connaître une fin heureuse. Voici donc la bonne nouvelle concernant cette histoire. Si vous êtes loin de Dieu, ou si vous fuyez, vous êtes en train de fuir Dieu, il y a un Père dans le ciel qui, au plus profond de l'humain, veut vous accueillir. Il suffit, comme ce jeune fils, de reconnaître que vous avez péché et vous repentir devant Dieu. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Quel adulte, peu importe l'âge, est en mesure de dire, de reconnaître ses torts et de dire que quelqu'un d'autre a raison? Dieu nous a dit qu'on est tous des pécheurs. Dieu nous a dit qu'il détestait le péché, mais qu'il aimait les pécheurs. Et Dieu veut que le pécheur se répande pour pouvoir avoir cette joie, recevoir cette joie, cette paix, ce pardon qu'on recherche tant, ce vide, de combler ce vide que les gens recherchent tant à travers le sexe, à travers la boisson, à travers la drogue, à travers les sorties, à travers le matérialisme, à travers tout. Et on est débordé. On vit dans une société où il n'y a jamais eu autant de suicides. Les Belges sont les champions, les adolescents belges sont les champions du suicide alors qu'ils ont tout. Les Québécois, les jeunes ont des voitures, ils ont des piscines, ils ont deux maisons. Et on a un taux de suicide épouvantable en Amérique du Nord, au Québec. Il leur manque le principal, de connaître l'amour de Dieu. Il n'y a aucune somme d'argent, aucun plaisir dans ce monde qui peut remplir le vide. Le vide qui est dans notre cœur, ce vide de Dieu, qu'on recherche tant à travers toutes ces choses que le monde nous offre et que seul Dieu peut nous offrir. Il suffit d'abord de renoncer à ce que le monde nous offre pour accepter l'offre de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. C'est son salut. Et dans ce salut, eh bien, nous recevons le pardon, nous recevons la joie, nous recevons la paix que j'ai tant recherché pendant les années et que tous, sans le savoir, nous courons après chaque jour dans le monde. Comment recevoir ce pardon? C'est simplement ouvrir son cœur à Dieu par un acte de foi qui est exprimé par une prière. Je vous invite à fermer les yeux en terminant. Il nous reste 2 minutes. Simplement fermer les yeux. Simplement vous recueillir, vous concentrer. Comme ce jeune homme, prendre 5 minutes pour réfléchir. Voici une prière que j'ai faite il y a plusieurs années. Une prière que j'ai acceptée par la foi. Une prière où, lorsqu'on m'a demandé de la faire, j'avais accepté de renoncer à mon ancienne vie, à renoncer à tous ces plaisirs du monde, à m'accaparer des biens que je laisserais à mon décès, je ne sais pas qui, et à accepter l'offre que Dieu me faisait en Jésus-Christ. Voici cette prière que j'ai faite. Je ne vous demande pas de la répéter, de la réciter fort, mais si, de par la foi, vous voulez vraiment prendre cette décision, comme Véronique et comme Catherine ont fait un jour dans leur vie, bien, je vous invite dans votre cœur à faire cette prière. Et si vous la faites, allez trouver une personne, la personne qui vous aura invité, partagez-lui que vous avez fait par la foi cette prière. Voici cette prière que j'ai faite et que je vous invite à faire. Seigneur Jésus, je te remercie de m'aimer. Merci aussi d'être venu dans ce monde pour mourir à ma place sur la croix. Je reconnais que jusqu'à présent, j'ai dirigé ma vie comme je le désirais et qu'ainsi j'ai péché contre toi. Je veux maintenant mettre ma confiance en toi, t'ouvrir mon cœur et te recevoir dans ma vie. Merci de me pardonner les péchés. Transforme-moi. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Je veux commencer une nouvelle vie avec toi. Seigneur, je te remercie déjà d'avoir répondu à ma prière, d'être maintenant dans mon cœur et me donner la vie éternelle. Amen.